point de mire. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Mercredi dernier, l'Institut de France était placé sous le signe de la Roumanie. En effet, pour accueillir l'Académie roumaine, 3 des 5 académies formant l'Institut de France, c'est-à-dire l'Académie des Beaux-Arts, les Inscriptions et Belles-Lettres et l'Académie des Sciences Morales et Politiques, se sont réunies en une séance commune pour évoquer le patrimoine culturel roumain et particulièrement celui d'une région très riche, la Bucovine. Monsieur Arnaud Dautrive, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, a ouvert cette séance en souhaitant la bienvenue à ses invités roumains et en soulignant le caractère exceptionnel de cette rencontre.
En ce début de séance, réunissant l'Académie roumaine et 3 des académies qui forment l'Institut de France, il me revient, en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, dont le mercredi est traditionnellement le jour de réunion, de vous souhaiter à tous la bienvenue. Ce jour est réellement exceptionnel. Il est rare de voir réunis l'Académie des Beaux-Arts, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et l'Académie des Sciences Morales et Politiques au cours d'une même séance de travail. Je salue donc mes confrères de ces 3 compagnies. Il est plus rare encore d'accueillir une académie étrangère au sein de nos réunions. La haute qualité des personnalités présentes aujourd'hui dans cette salle confère à cette séance un caractère solennel. Je souhaite saluer tout particulièrement M. Razvan Teodorescu, ministre de la Culture et des Cultes de Roumanie, M. Dan Berendi, président de la section des sciences historiques et archéologiques de l'Académie roumaine, Mme Teresa Sinigalia, directrice de l'Institut national des monuments historiques de Roumanie, et le professeur Eugène Simion, président de l'Académie roumaine, qui vont s'exprimer dans quelques instants. Nous nous réjouissons beaucoup de cette collaboration interacadémique et internationale et nous souhaitons que les travaux menés tous ensemble contribuent au développement des relations culturelles entre nos deux pays. À l'issue de 2 journées de travail que vous avez menées voici bientôt 1 an, Monsieur le ministre, avec Monsieur Jean-Jacques Ayagon, ministre français de la Culture et de la Communication, vous aviez souligné combien les relations culturelles entre la France et la Roumanie sont profondes et anciennes. Vous avez alors appelé de vos voeux un nouvel essor de la coopération bilatérale entre nos deux pays en matière culturelle, dans la perspective de l'adhésion prévue de la Roumanie à l'Europe en 2007. Vous savez tous que la France soutient cette adhésion avec force. L'amitié franco-roumaine est une des composantes de la francophonie dont nous souhaitons le développement. Je rappellerai que la langue française, introduite en Roumanie au XVIIIe siècle, est aujourd'hui parlée par 1 Roumain sur 4, ce qui fait de votre pays, celui de Ionesco et de Sioran, celui aussi d'Enesco et de Brancusi, le 3e pays en Europe membre de la francophonie institutionnelle. Le 11e sommet de la francophonie, qui sera organisé dans 2 ans à Bucarest, permettra de réaffirmer les liens solides et riches qui unissent nos deux cultures. La réunion d'aujourd'hui, dont le thème est la préservation du patrimoine culturel roumain, se présente comme une première concrétisation des vœux formulés par les uns et les autres. Vous savez combien nos académies sont attachées à la défense et à l'illustration du patrimoine. Les statuts de l'Académie des Beaux-Arts en particulier confèrent cette mission à notre compagnie. C'est donc bien volontiers que nous étendons notre champ de réflexion de la France à l'étranger. Nous sommes heureux de nous ouvrir à une meilleure connaissance des richesses patrimoniales et culturelles roumaines pour mieux prévoir les moyens de leur préservation et de leur rayonnement en unissant nos connaissances, nos expériences et nos enthousiasmes. Pour conclure, je forme des vœux pour que cette collaboration entre nos académies se renforce au fil du temps par de nombreuses réunions telles que celle-ci, celle qui nous rassemble aujourd'hui, par des échanges fructueux qui sauront nous rapprocher encore davantage. L'art, qui n'a pas de frontières, en sera le langage commun et l'enjeu majeur.
Après cette introduction de M. Arnaud d'Autrive, la parole a été donnée à M. Razvan Teodorescu, ministre de la Culture et des Cultes, membre de l'Académie roumaine, qui a développé le thème de la Bucovine, cette région particulière de la Roumanie, qui a, dit-il, formé un petit État européen. Monsieur le ministre a également eu le geste délicat d'offrir à la bibliothèque de l'Institut de France un certain nombre d'ouvrages, notamment plusieurs de ses ouvrages, lui, sur cette région de la Bucovine. Nous l'écoutons.
On pourrait dire que la Bucovine, avec ses débuts moyenâgeux après 1300, avec son triomphe culturel à travers les fresques des églises princières et nobiliaires d'entre 1450 et 1600, demeure plus qu'un magnifique moment de la culture européenne. Elle exprime, dans cet espace de la seule orthodoxie latine et de la seule latinité orthodoxe du monde, un temps profondément religieux, le changement d'une mentalité scise entre médiévalité et esprit moderne, l'affinement d'une sensibilité, l'enrichissement d'un savoir. Somme toute, cette terre de la douce Bucovine, comme nous l'appelons nous, marque, dans l'univers de ces latins d'Orient que sont les Roumains, un rapport nouveau de l'homme avec son histoire et avec les miracles divins. Je vous remercie pour votre attention.
Monsieur le ministre, merci beaucoup. La parole est à monsieur Alain Besançon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Introduction à l'histoire de la Roumanie.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Messieurs les ministres, mes chers confrères de l'Institut et de l'Académie roumaine, Mesdames, Messieurs, j'ai un peu honte de parler, après la très savante introduction de Monsieur Teodorescu, je vais me mettre au niveau du public, j'allais le dire au niveau des académiciens, disons à mon niveau. Nous nous entendons français très bien avec les Roumains. Peut-être parce que les Roumains sont parmi les rares peuples d'Europe à se sentir bien avec nous. Peut-être aussi parce que leur langue a quelque chose de familier, surtout quand ils emploient la nôtre, ce qu'ils font encore volontiers, au moins dans l'ancienne génération. Parce qu'ils nous ont fait l'honneur de nous donner au siècle dernier deux de nos plus célèbres écrivains, Cioran et le grand Eugène Ionescu. Peut-être parce que c'est un peuple d'esprit rapide et doué d'un grand sens de l'humour. Et cependant, il faut bien dire que nous connaissons mal l'histoire de ce pays. Elle n'est d'ailleurs pas facile à connaître. Entre le IIIe siècle, plus exactement depuis 270, quand, selon Eutrope, l'empereur romain Aurélien décida d'évacuer la Dacie, c'est-à-dire le territoire que Trajan avait conquis et peut-être un peu colonisé au nord du Danube, et le XIVe siècle, les documents sont rares. Problématique aussi est l'histoire de la langue roumaine. La tendance patriotique, par conséquent dominante, est d'affirmer une continuité entre le latin supposé de la Dacie et le roumain actuel. Une autre école affirme que le roumain s'est implanté au Haut Moyen-Âge par l'émigration de populations latinisées d'Illyrie, c'est-à-dire de l'actuelle Slovénie, Serbie ou Croatie. On n'a pas trouvé de preuves décisives, à ma connaissance, à l'appui de l'une et l'autre thèse. Telle quelle, la langue roumaine est de structure syntaxique latine, mais son vocabulaire contient un grand nombre de mots slaves qui doublent le vocabulaire d'étymologie latine et pas mal de mots grecs et turcs, ce qui en fait une langue fort riche et propre à soutenir une belle littérature. Au XIVe siècle, deux puissances se disputent la région, le royaume hongrois et l'empire tatar. Le royaume hongrois, qui est alors gouverné par la dynastie angevine, organise aux dépens des Tatars la Valachie au sud des Carpates, la Moldavie au nord-est, y nomme des voïvodes, leur accorde des titres princiers à charge pour eux de se considérer comme vassaux et de payer un tribut. Ces vassaux entrèrent vite en rébellion et se considèrent, dès le milieu du siècle, comme des chefs de dynastie. En revanche, la Transylvanie, au nord-ouest de l'arc carpatique, reste sous la souveraineté directe hongroise, avec à sa tête un voïvode. La Valachie ne tarde pas à devenir le théâtre de guerre disputé entre le jeune empire ottoman et la Hongrie. La Moldavie entre plutôt dans l'influence du royaume de Polono-Lituanie, qui a hérité de la moitié occidentale de la Russie, Biélorussie, Ukraine et au-delà, à la faveur du vide militaire laissé par le retrait des Tatars. Cependant, à en croire l'historiographie hongroise, mais non pas l'historiographie roumaine, les deux principautés restent essentiellement dans l'orbite du grand royaume catholique hongrois. Les historiens roumains, au contraire, dans leur majorité, insistent sur l'héritage byzantin. La tradition byzantine avait pénétré dès avant la prise de Constantinople par les Turcs, portée par les diasporas serbes et grecques. On a reconnu, par exemple, l'influence de la peinture serbe sur les églises moldaves du XIVe et du XVe siècle. La diaspora grecque, à son tour, essaye de construire une sorte de Byzance après Byzance, et les descendants de l'aristocratie post-byzantine, les paléologues, les cantacuzènes, font leur apparition dans la région, nouent des liens avec les monastères de Latos, rêvent de croisades et de reconstitution de l'Empire grec. Alors, c'est alors que la carte religieuse de la Roumanie se fixe. En Transylvanie, un mélange orthodoxe, calviniste, catholique, plus tard uniate, et en Valachie et Moldavie, seulement orthodoxe. L'orthodoxie, en effet, devient dans cette région un moyen de tenir à distance la trop envahissante suzeraineté hongroise. Et c'est aussi un instrument de rejet de la réforme. Au XVIe siècle, la Moldavie est cependant très ouverte à l'influence polonaise. Les jésuites, venant de Pologne, dans leur collège de Yassi, qui se prononce Yach, d'après ce que j'ai compris du président Teodorescu, les jésuites, dans leur collège de Yach, donc, forment les élites moldaves. Mais par contre-coup, et sur le modèle jésuite, le métropolite de Kiev, comme on dit maintenant, Pierre Mogila, fonde de son côté un collège orthodoxe, d'allure jésuite, mais orthodoxe, qui fournira les cadres de la Renaissance orthodoxe, moldave et valaque. Toutefois, les deux principautés, Valachie et Moldavie, restaient théoriquement sous le joug de l'Empire ottoman. Les Valaques furent soumis aux tribus en 1417 et les Moldaves en 1456. Tous les ans, les collecteurs envoyés par la porte ramassent le blé, l'orge, le bétail, avec des chiffres bien sûr un peu légendaires. Les sultans s'immiscent dans les querelles dynastiques, acceptent les princes ou les destituent, d'où des révoltes, des demi-croisades, où c'est fameusement illustré Vlad Tepes, l'empaleur, dit encore Dracula, qui fait partie de la légende noire roumaine. Ce prince valaque, Dracula, ça veut dire le diable en roumain, mais en fait c'est un ordre bohémien, hein, c'est un ordre du dragon. Bon. Dracula, prince valaque, vassal simultané de la Hongrie et de la Porte, sévit entre 1448 et 1476, en palant assez généreusement des deux côtés. Mais il faut savoir que les épouvantables informations sur ce prince viennent surtout de la Hongrie. Effectivement, le roi Matthias Corvin voulait persuader le pape de sévir contre ce tyran, lequel était en même temps engagé contre les Turcs. Par conséquent, il fallait forcer la note. Mais ces récits, alors ça c'est intéressant, ces récits épouvantables sur Vlad Tepes, une fois traduits en langue russe par Fédor Kouritsyn, qui était ambassadeur d'Ivan III à Bouddha, furent considérés par les tsars russes comme le modèle du bon gouvernement. Ivan III et Ivan le Terrible eurent donc à cœur d'imiter Vlad l'Empaleur, le prince exemplaire, et de renchérir au besoin sur lui. Nous voyons donc que ce qui sera plus tard la Roumanie est au carrefour de toutes les influences. Il est dur d'être simultanément, ou tour à tour, soumis à la Turquie ottomane et à la Hongrie, tout en dépendant quand même plus ou moins du royaume de Polono-Lituanie. Mais cette triple vassalité permet du jeu et, dans certaines circonstances, peut être considérée comme une annulation de toute vassalité. Il est temps maintenant de considérer de plus près une province où fleurit un art qui nous occupe aujourd'hui, la Bucovine. Alors, la Bucovine occupe le nord de la Moldavie. Elle est bordée par le Prout, au-delà duquel s'étend la Bessarabie, devenue République moldave et toujours État satellite de la Russie. Au nord, par l'Ukraine, ou plus précisément par la Podolie. Un grand morceau de la Bucovine du Nord, a été avalée par l'URSS en 1939, suite au pacte germano-soviétique, et se trouve donc toujours en Ukraine. À l'ouest, elle est bordée par les Carpates, dont elle forme le piémont oriental. Donc, entre 1775 et 1918, l'actuelle Bucovine était la province la plus orientale de l'Empire austro-hongrois et faisait partie du royaume de Hongrie. La Roumanie, indépendante depuis 1878, en hérita en 1918. Pendant les deux guerres mondiales, la Bucovine fut le théâtre d'horreurs variées, et après, sous le communisme aussi. C'est un beau pays, et probablement un des derniers d'Europe où l'on trouve une civilisation paysanne traditionnelle. On se déplace à la charrette, on fauche les champs à la main, on va chercher l'eau au puits. Maisons et églises sont construites en bois, et les éléments décoratifs sont sculptés avec une grâce charmante. Le folklore, qui est fort en Roumanie, il y a un splendide musée des peuples de la Roumanie, enfin du folklore roumain, à Bucarest, le folklore garde dans cette partie de la Roumanie une authenticité certaine. La vie monacale est très vivante, on compte plus de 200 monastères et skites. Les skites, c'est des ermitages. C'est un moine moldave du XVIIIe siècle, Païssy Vilichkovski, qui traduisit en slavon le fameux recueil de l'Hésychasme, la philokalie de la prière du cœur, anthologie d'ascétisme et de prière des pères grecs imprimés à Venise à la fin du XVIIe siècle. Nous sommes donc au centre spirituel de la Roumanie orthodoxe. Revenons au XVe siècle. Le joug turc est beaucoup plus léger qu'en Grèce ou en Serbie. Istanbul est loin, les royaumes chrétiens sont proches. Les provinces sont dirigées par des princes élus par la noblesse locale et approuvés par la sublime porte, et non par des pachas nommés à Istanbul. La liberté du culte chrétien est entière et on ne construit pas de mosquée. Il n'y a pas eu en Bicovine une islamisation comme en Albanie, ni une immigration turque comme en Bulgarie ou en Grèce. À ma connaissance, les sultans n'exigeaient pas l'impôt du sang, c'est-à-dire l'enlèvement des plus beaux garçons pour l'éducation militaire dans les casernes de janissaires. Il est vrai qu'il y avait pas mal de volontaires pour y aller. Sous le prince Étienne le Grand, Stéphane Selmari, et sous son fils naturel, Petru Rareș, à cheval sur le XVe et le XVIe siècle, put ainsi librement se développer ce qu'on a appelé la synthèse moldave. Ces princes raffinés tenaient leur cours à Suceava, puis à Iași. Ils se mettaient délibérément dans la tradition byzantine et repoussaient avec horreur les premiers effluves de la Réforme. Mais ils n'en accueillaient pas moins certaines influences du gothique international, notamment sous sa forme transylvaine et polonaise. Alors, les plus célèbres monastères à peinture sont ceux de, pardonnez mon accent, de Voronet, Humor, Moldovita et Suțevița. Leur architecture est marquée par l'influence serbe et byzantine. Le plan dit triconque vient de Serbie. Les encadrements des portes et fenêtres sont en pierre et souvent de facture gothique. La tour est lancée sur la nef, la coiffe pointue de cette tour, les toits hauts et articulés sont typiquement moldaves. Mais la grande originalité réside dans l'extension de la peinture aux façades sur toute la surface.
C'était donc l'intervention de M. Alain Besançon. À la suite de son intervention, c'est M. François Chamou de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui a exposé la coopération franco-roumaine en matière d'archéologie, et particulièrement pour les épigraphes. Cette collaboration aboutit souvent, a-t-il souligné, à la publication d'ouvrages tant en français qu'en roumain, d'ouvrages très savants. Voilà pour cette séance consacrée au patrimoine culturel roumain, séance tout à fait exceptionnelle puisqu'elle réunissait au palais de l'Institut trois académies, l'Académie des Beaux-Arts, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et l'Académie des Sciences Morales et Politiques. Merci pour votre attention. Thank you.
Vous écoutez Canal Académie.